Bonjour à tous. C'est une réelle joie d'être avec vous et de partager ce temps de louange, d'adoration, et puis de partager ce temps de message, de parole. C'est aussi une responsabilité. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous faire une confidence. Donc, qui dit confidence, ce n'est pas la peine de le répéter. Je suis tombé amoureux, évidemment. Normal, avec une jeune dame que j'accompagne, Chantal, puis nous sommes mariés. Puis je suis tombé amoureux une deuxième fois, mais pas de cette dame. Alors là, ça commence à vous intriguer. Je suis tombé amoureux de l'église. Pas en tant que bâtiment, pas en tant qu'architecture, mais en tant que ensemble de pierres vivantes. Donc, ne soyez pas, comment dire, contrariés ou surpris si je vous dis je suis amoureux de vous. C'est cohérent. Alors, dans ce monde qu'il faut bien le dire, un monde brutal, il existe quand même certainement un endroit où il fait bon vivre, un endroit au moins où on peut être sûr, à l'abri. Ne pensez-vous pas cela? Alors pour moi, je pense que c'est l'Église. Donc s'il y a un titre à donner à ce message, l'Église locale, un lieu où il fait bon vivre. Nous lirons dans deux textes, un dans l'Ancien Testament et puis un dans le Nouveau Testament. Mais je vous invite aussi à ce que chacun garde à l'esprit qu'il y a un parallèle à faire avec ce que vous êtes appelé à vivre dans les semaines à venir. Et lorsque j'ai vu tout à l'heure la vidéo, je dois vous dire que j'ai été gagné par l'enthousiasme. C'est quelque chose de formidable à vivre, je vous l'assure. C'est vrai que c'est un défi. Mais c'est quelque chose d'incroyablement enthousiasmant. Pour certains d'entre nous, c'est-à-dire les moins jeunes, ceux qui ont les cheveux blancs, la vie dans l'église locale était un devoir. Et ne pas se rendre au culte, eh bien, ça ne se faisait tout simplement pas. Qu'importe la météo, qu'importe les circonstances de la semaine vécue, on ne se rendait au culte. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'individualisme dans notre société régnant fait penser qu'on n'a pas besoin des autres. On peut même faire nôtre cette parole Dieu pour tous et chacun pour soi. On peut néanmoins reconnaître que la foi en Dieu, c'est vrai, c'est important. Mais il faut pas trop en faut. Hein. Un petit peu. Faut pas exagérer. Il y a les loisirs, il y a le repos, les difficultés de la vie. Finalement, eh bien, on est mieux seul. Mais voilà que Dieu nous a appelés à vivre avec lui, avec d'autres personnes, frères et sœurs en Christ, dans un cadre particulier qui est l'Église. Un homme seul est en mauvaise compagnie, a dit Paul Valéry. Quand on oublie l'importance de la vie avec les autres, eh bien, il y a, je dirais, un vrai danger. Mais lorsqu'on s'engage avec le Seigneur, nous découvrons la vie avec lui. Et il nous intègre alors à son corps, qui est l'église locale, qui est une famille, comme ici, rue Guynemer. Et bientôt, cette famille va se déplacer. Et lorsqu'on s'engage avec le Seigneur, nous découvrons alors la vie avec lui. Il nous intègre alors à son corps, comme je viens de le dire. Et lorsque cette dimension est vécue sur le plan local, l'église locale devient un endroit de bénédiction, c'est-à-dire l'endroit où Dieu accorde et manifeste sa grâce. D'ailleurs, c'est ce que vous vivez ici. Oui? Donc ce matin, arrêtons-nous sur des passages où Dieu insiste sur la réunion, le rassemblement des enfants de Dieu, comme lieu de bénédiction et de construction. Donc l'église locale est un lieu de bénédiction parce qu'il y a la présence du Seigneur. Quand on lit Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20, nous lisons ceci. C'est Jésus qui parle. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là, deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le verset 20 dit, je suis au milieu d'eux, mais de vous. Il est au milieu de nous ici ce matin. Parce que déjà, nous sommes déjà plus que deux ou trois. Donc, il est au milieu de nous. Ce qui est important comme bénédiction, c'est la présence du Seigneur. Cette présence n'est pas visible. Elle n'est peut-être même pas ressentie. En fait, c'est un peu comme pour Élie dans le désert, parce que les circonstances de la vie exercent une pression. Et comme pour Élie, Dieu est présent comme un souffle doux et léger. Il est vrai que nous sommes tellement habitués à un environnement de bruit, de tumulte, d'agitation, mais ce n'est pas le bruit ou l'excitation qui fait que le Seigneur est davantage présent. Non, la condition de cette présence est d'être uni en son nom, c'est-à-dire en communion avec sa personne et avec les uns et les autres. Il s'agit donc davantage que de croire en Dieu et d'être assis les uns à côté des autres. Jésus montre même que s'il est avec chacun de nous dans notre foyer, en voiture, au travail, sa présence est d'autant plus sensible quand celles et ceux qui vivent avec lui sont unis, sont réunis. Pour ma part, c'est toujours une interrogation pour moi quand certains ne sont pas réguliers aux réunions. Bien sûr, quand on est malade, on ne peut pas être présent. Lorsque je pense à cette bénédiction quand on est réunis, peut-être certains oublient cette réalité. Au verset 19 du texte, nous lisons, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Il s'agit là de la prière. L'Église est un lieu de combat dans la prière, dans l'intercession. Il paraît évident que nous pouvons prier chez nous à la maison. Ça va de soi, en toutes circonstances même. Même en conduisant la voiture, votre voiture, vous pouvez prier. Mais il ne faut pas fermer les yeux. On peut prier même en poussant le caddie quand on fait les courses. En fait, je peux même dire que la prière, c'est un mode de vie. D'ailleurs, l'apôtre Paul ne lui dit pas « prier en tout temps ». Donc, il s'agit donc davantage de croire que... Oh, pardon, je reviens, là j'ai sauté quelque chose. Le Seigneur répond à la prière de ceux qui se réunissent pour prier ensemble. Et lorsqu'on est uni au Seigneur, on ne lui demande pas d'une manière égoïste, sans que ce soit en accord avec ce qu'il veut. Et là aussi, le Seigneur accorde sa bénédiction et Jésus le dit sans détour. Alors soyons engagés dans la vie de prière, à la fois personnelle et en Église, pour mener les combats que nous rencontrons et nous en rencontrons chaque jour. Nous sommes plus forts pour combattre à plusieurs que seuls. L'Église locale, c'est aussi là où se manifeste, où nous pouvons mettre en pratique la communion fraternelle. Allons dans l'Ancien Testament et lisons ce que David dit à ce sujet. Alors je vais lire le psaume 133, c'est vrai qu'il n'est pas aussi long que le psaume 119, heureusement. Donc le psaume 133, cantique de David. Voici, ô qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la terre, sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La communion fraternelle est une richesse qui n'a pas de prix pour ceux qui la vivent. La conséquence dans la vie de ceux qui sont unis en Dieu, c'est qu'il se passe des choses extraordinaires. Conversion, guérison intérieure, guérison physique, pardon, réconciliation, etc., etc. Au verset 3, nous lisons le privilège, la rosée rafraîchissante. C'est comme un privilège de la rencontre et de l'unité des enfants de Dieu. Cette rosée rafraîchissante. C'est un miracle de vivre ensemble. Un peu comme cette rosée qui descendait du mont Hermon. Le mont Hermon se situe au nord d'Israël et culmine à près de 2800 mètres. Et cette rosée qui descendait de cette montagne, elle était probablement parfumée parce que ça se sentait jusqu'à Jérusalem. Frères et sœurs, vous imaginez la bonne odeur de Christ qu'il y a ici et qui se répand au travers des rues de Clermont-Ferrand, si bien que ceux qui sentent cette odeur veulent savoir d'où elle vient. Et ils arrivent ici, rue Guynemer. Non ? La communion entre personnes de différentes cultures, de milieux parfois opposés, est une vraie bénédiction. Et puis, la communion fraternelle est comme l'huile. Nous pouvons y voir plusieurs symboles. La joie, la guérison physique et spirituelle. D'ailleurs, en Jacques 5, versets 13 et 16, il est question de la guérison physique et spirituelle. C'est Dieu qui accomplit ce miracle, ce n'est pas l'huile. Mais c'est dans le cadre de l'Église locale que cela se pratique. Le malade demande aux responsables de l'Église de prier avec lui et pour lui, et ils appliqueront de l'huile. Il est évident que ça ne supprime pas ma lecture personnelle de la Bible, mais Dieu se sert des autres pour me faire grandir dans sa connaissance. Le résultat de la dynamique de l'Église primitive se trouve dans le livre des Actes des apôtres. Et nous lisons en Actes 2, 42, « Ils, c'est-à-dire les chrétiens, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Et le résultat était la bénédiction de Dieu, parce qu'au verset 47, nous lisons « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Voilà une perspective heureuse pour une Église, que chaque jour des âmes viennent s'ajouter. J'en arrive au deuxième point qui est la construction de l'Église locale. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 3, 10, que chacun prenne garde à la manière dont il construit. Parce que, effectivement, nous sommes appelés à bâtir, à construire. Construire une maison, aucun homme, aussi compétent soit-il, ne peut bâtir une maison tout seul. Même s'il connaît toutes les ficelles des différents métiers de la construction, il y a un moment où il aura besoin de l'aide d'autrui. Il fera appel à de l'aide pour couler la dalle de béton, pour mettre en place la charpente. En principe, celle ou celui qui travaille à une construction met sa compétence, son temps, son énergie au service de quelqu'un d'autre. Et en même temps, on travaille à la construction d'un édifice commun. C'est une expérience fantastique, je l'ai dit, qui a été faite sur le plan matériel par tous ceux qui ont construit leur lieu de culte avec la participation des membres de l'Église. Donc, je crois, je le répète, vous êtes appelés à vivre cette expérience dans les prochaines semaines. Personnellement, j'ai vécu à deux reprises cette aventure dans le ministère. Ce sont des moments qui permettent de vivre des temps forts les uns avec les autres. Parce qu'on va découvrir le frère qui est assis avec nous à l'église le dimanche matin d'une autre manière. Ah, je ne savais pas qu'il savait ça, je ne savais pas qu'il avait tel don, j'ignorais qu'il avait tel talent, et ainsi de suite. Ce sont des moments, oui, qui permettent de vivre vraiment des moments qui nous rapprochent les uns les autres. Travailler dans une construction demande toujours une certaine abnégation de soi. Il s'agit de faire du bon travail, qui le plus souvent ne se verra même pas. Par exemple, le travail du maçon sera caché par celui du plâtrier, qui à son tour disparaîtra sous celui du tapissier. En fait, on peut dire que chaque ouvrier doit cacher les fautes commises par le corps de métier précédent. Eh oui, le plâtrier doit combler les trous laissés par le maçon et parfois redresser les murs. Le peintre et le tapissier cacheront les irrégularités du plâtre. Et si chaque chrétien était animé des mêmes dispositions, poussé par l'amour qui couvre une multitude de péchés, l'édification mutuelle progresserait à grands pas. C'est ce que demande l'apôtre Paul aux Romains 15. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Waouh, quel programme, mes amis! Et puis, sur un chantier, il y a la pluralité des ouvriers. La construction d'un édifice demande la collaboration de différents ouvriers: maçons, charpentiers, plâtriers, électriciens, installateurs, carreleurs, peintres, etc. Et chacun connaît son métier. Si un seul homme devait tout faire, ce serait tout simplement impossible. Il en est ainsi dans la construction de l'Église. Dieu a accordé à chaque membre un ou plusieurs dons en vue de l'utilité commune, dit Paul. Paul dit aussi, nous sommes l'édifice de Dieu. Que chacun prenne garde à la manière dont il construit. Et puis, l'Église s'édifie correctement lorsque seul le pasteur accomplit le ministère, c'est-à-dire le service. Vous avez bien entendu? Je répète, parce que vous n'avez pas bien suivi. L'Église s'édifie correctement lorsque seul le pasteur accomplit le ministère, c'est-à-dire le service. Bien non. Non, non, non. Bien sûr que non. Tu as raison de dire que non, Eric. Et je partage tout à fait ton sentiment. Non, l'Église s'édifie lorsque chaque membre accomplit le service qui correspond à son don. Et c'est la raison pour laquelle l'une des tâches les plus importantes des maîtres d'œuvre, c'est-à-dire des responsables d'une Église, est d'aider chaque membre à découvrir ses dons et de le former à l'exercer en vue de l'édification. La même leçon est valable pour l'édification de chaque chrétien dans l'Église. C'est par la participation des frères et des sœurs que notre foi grandit. Chacun apportant ce qui correspond à son don, à sa personnalité, à ses traits de caractère. L'un va poser les fondements de la foi, un autre bâtit dessus les premiers enseignements, puis un troisième va poser les fenêtres pour qu'il y ait des ouvertures afin d'illuminer, d'apporter de la lumière. Un autre encore mettra notre vie un peu plus de chaleur. Ou viendra y installer l'électricité, un autre fixera les tuiles pour que nous puissions être à l'abri des intempéries. Un autre encore va réparer les dégâts du gel, sans oublier ceux qui, comme le peintre, viendra mettre des couleurs dans notre vie. Sinon, elle se restera triste. Et morne. Et puis Paul recommande à Timothée: édifiez-vous les uns les autres, parce que l'amour édifie. Puis Pierre n'est pas en reste non plus, l'apôtre Pierre. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Tout témoignage d'amour vrai ne peut que faire grand. il y a aussi une utilité de tous les métiers. Tous les corps de métiers qui interviennent dans la construction d'une maison ont leur utilité. Mais aucun d'eux ne peut tout faire. Certains ouvriers travaillent pendant des semaines à une maison. D'autres quelques jours, voire quelques heures. Mais tous leurs travaux sont indispensables. Celui qui vient poser, par exemple, le compteur électrique, s'il met deux jours, là, il y a un problème. En principe, en quelques minutes, c'est fait. Et sinon, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas de chaleur. Le frigo ne marchera pas. Celui qui a gâché le mortier pour cimenter les briques a peiné bien davantage et plus longtemps. Mais qui se souviendra de son travail? Et cependant, sans lui, pas de maison solide. Autrefois, lorsque le gros œuvre était terminé, ça je l'ai vu plusieurs fois, on plantait un arbre enrubanné au sommet de la charpente du toit. Et puis on rassemblait tous ceux qui avaient participé aux gros œuvres et il y avait un repas qui était organisé. Puis, après le gros œuvre, combien de corps de métier défileront sur le chantier avant que la maison soit habitable, confortable et belle? Combien de frères et sœurs doivent mettre leurs dons au service des autres pour qu'une église soit accueillante, chaleureuse et bien unie? Toutes ces activités participent à la vie de l'Église, à sa croissance à la fois numérique et spirituelle, donc à son édification, à sa construction. Mais aucun de ceux qui les accomplissent ne peut prétendre faire fonctionner l'Église tout seul. Comme aucun des organes de notre corps ne saurait prétendre faire marcher le corps tout seul, selon ce que l'apôtre Paul dit. Bien que chacun, chaque organe de notre corps sont utiles. Mais le foie ne peut pas dire au cœur, j'ai pas besoin de toi. Non. Cette conscience de notre utilité dans le corps de Christ et de ses limites donne bien sûr un sens à notre vie et nous garde dans l'humilité. Il y a, alors pour que tout cela fonctionne bien, bien sûr qu'il y a besoin d'une collaboration de tous les ouvriers. Pour que la construction se déroule de manière harmonieuse, il est utile que les différents corps de métier s'entendent sur le calendrier de leur intervention, sur la manière de procéder. Sinon, bien, tout le monde risque de se marcher sur les pieds. Alors c'est l'architecte qui veille à cette concertation, à cette harmonie. Il est aussi important que les ouvriers sur le chantier aient des bonnes relations entre eux. Parce que les difficultés relationnelles produisent des malfaçons, du sabotage, et puis c'est de l'argent perdu. Tandis que la bonne entente fait gagner du temps et de l'économie. Dans l'Église, les bonnes relations entre les membres sont importantes pour l'édification et la croissance. Et je répète, l'amour fait grandir dans la foi. Le corps s'édifie dans l'amour. Maintenant, arrivé à ce point, je peux me poser quelques questions, me faire quelques réflexions à moi-même. Dans mes relations avec les frères et sœurs de mon Église, est-ce que je recherche avant tout ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, c'est-à-dire ce qui aide les autres à grandir dans la foi? Ai-je toujours en vue les conséquences de mes paroles, de mes actes sur l'ensemble de la communauté? Et puis, dans ma recherche de dons spirituels, suis-je motivé en priorité par les besoins et par l'édification de mon Église? Est-ce que je cultive et développe les dons que j'ai découverts en moi pour qu'ils servent à la construction du corps de Christ en stature et en grâce, c'est-à-dire numériquement et spirituellement? Mon objectif est-il mon épanouissement personnel ou bien celui des autres frères et sœurs? Est-ce que je confronte mon travail et celui de mon Église avec le plan que le maître, que l'architecte nous a laissé dans sa parole? Est-ce que j'ai des difficultés pour accepter l'autorité des entrepreneurs des contremaîtres locaux, c'est-à-dire des responsables de mon église, ou pour collaborer avec les autres corps de métier, c'est-à-dire ceux qui accomplissent d'autres services dans l'église. Et puis, quel pas concret pourrais-je faire pour aplanir ces difficultés? Dieu nous permet de vivre des bénédictions qui nous fortifient, nous encouragent, ici, ensemble et ailleurs. Alors, quant à ma participation, à mon engagement, dans mes habitudes, qu'est-ce qui me freine, moi, et ceux que le Seigneur a placés à côté de moi? Et enfin, je termine. Dieu n'a pas pensé l'Église comme un bâtiment à l'architecture gothique, romane ou baroque. Non, Dieu a pensé l'Église pour être un corps vivant où il veut donner, déverser sa bénédiction. Dieu le Père a pensé l'Église. Son Fils, le Seigneur Jésus, s'est donné pour elle. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui rassemble les pierres vivantes pour édifier ce corps. Et quand la mission sera achevée, le Saint-Esprit se présentera devant le Père et le Fils et leur dira: « Mission accomplie !» Le Père se tournera vers le Fils et lui dira: « Fils, se taperont dans la main et lui dira: « À toi de jouer, va chercher ton église. » Waouh ! Moi, j'attends ce jour-là. Mais en attendant ce jour, que chacun de vous et moi avec vous, puissions dire, avec le psalmiste, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et sœurs d'être ensemble, car c'est là que le Seigneur donne sa bénédiction et la vie pour toujours. Amen. N'oubliez pas, je suis tombé amoureux de vous. Seigneur vous bénisse.